9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Je reçois ce matin Raphaël Dohan qui vient de publier Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours. Pour lui, la France a renoncé à sa politique d'assimilation il y a 30 ou 40 ans et l'une des conséquences, c'est le projet de loi contre le séparatisme qui sera examiné à partir de demain à l'Assemblée nationale et qui risque de modifier la loi sur la laïcité de 1905 dont nous étions si fiers. Il y aura également Frédéric Ploquin pour son nouveau livre Les narco-français brisent l'omerta et l'on termine. Terminera l'émission avec la chanteuse Lala Hayes. Son premier album vient juste de sortir. C'est une véritable révélation, vous allez l'entendre. Bonjour Raphaël Dohan.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Vous publiez Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours chez Passé Composé. Le projet de loi sur le séparatisme sera débattu demain à l'Assemblée nationale. Il modifie la loi sur la laïcité de 1905. Or, vous dites que ce que l'on appelle aujourd'hui un problème de séparatisme ou un problème de laïcité, c'est en réalité un problème d'assimilation, mais qui n'ose pas dire son nom.
Oui, en fait, quand on parle de séparatisme, c'est qu'implicitement, on veut dire qu'il y a une partie de la population qui ne s'est pas assimilée, puisque l'assimilation, ça consiste justement à exiger d'étrangers qui sont venus dans un pays qu'ils se comportent exactement comme les habitants de ce pays, selon la culture d'accueil, dans leur vie quotidienne, dans leur façon de voir le monde, dans les relations hommes-femmes, par exemple. Et en l'occurrence, en visant donc le séparatisme de la communauté musulmane en particulier, on veut en fait, selon une vieille tradition française, chercher à les assimiler. Sauf que, comme l'assimilation est devenue un concept qui a des connotations assez négatives parce qu'il est lié à l'époque coloniale en particulier, on n'ose plus parler d'assimilation, on n'ose plus dire clairement ce qu'on veut demander en fait aux étrangers et aux enfants d'immigrés. Et donc je pense que ça fait un grand malentendu, une sorte de quiproquo. On parle de laïcité par exemple, ou on parle effectivement de séparatisme, mais on ne dit pas clairement les choses qui est on veut simplement qu'ils se comportent comme des Français.
Mais ça va plus loin que ça, puisqu'en changeant la loi sur la laïcité par exemple, on obtient ou on risque d'obtenir des effets pervers qui ne sont pas du tout ceux qui sont souhaités, simplement parce qu'on utilise les mauvaises armes au fond, d'après ce que vous dites.
Oui, parce qu'en fait la laïcité c'est un concept qui n'était pas tellement lié à l'assimilation à l'époque où il a été
oui,
construit.
La laïcité, ce n'est pas l'identité nationale.
Non, exactement. La laïcité, ça concerne d'abord la neutralité de l'État par rapport aux religions et ça n'implique pas forcément que toute personne en France respecte une neutralité religieuse. En fait, moi, je pense qu'on peut légitimement exiger effectivement des choses qu'on appelle maintenant, laïcité. Par exemple, la loi sur le voile à l'école de 2004 est une loi qui me paraît légitime. D'ailleurs, elle avait été votée à la quasi-unanimité à l'époque par l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas une loi de laïcité, malgré ce qu'on a dit. En fait, c'est une loi d'assimilation qui vise à faire en sorte que les jeunes filles à l'école adoptent une coutume française ou plutôt renoncent à une coutume qui nous paraît contraire à nos valeurs et à notre façon de vivre. Et à force d'utiliser la laïcité comme un concept et presque une arme en fait pour qu'un problème qui n'est pas approprié, je pense qu'à force d'utiliser les mauvaises armes, on finit par blesser de mauvaises personnes, c'est-à-dire des gens qui veulent aussi pratiquer leur religion de manière
d'où les protestants, les protestants qui se révoltent contre la loi sur le séparatisme. Alors revenons à l'assimilation. Autrefois, ça faisait l'unanimité en France. Hein.
Oui, ça a été un consensus. En fait, d'abord, ça a de vieilles racines en France. Ça ne remonte pas seulement à la République, mais on peut même aller jusqu'à l'Ancien Régime, puisqu'en fait, il y a toujours eu une tendance à la fois universalisante en France, c'est-à-dire qu'on pense que tous les hommes ont un fond commun et que rien n'empêche quelqu'un, même s'il n'a pas des origines françaises, de devenir totalement français. Ça, c'est vraiment un réflexe fondamental en France. Et en plus, on a un réflexe unificateur, homogénéisant, centralisateur aussi, qui fait qu'on préfère quand les habitants d'un peuple ou d'un pays se ressemblent les uns les autres, partagent les mêmes habitudes. Et donc, logiquement, donc sous l'Ancien Régime, on l'a vu, hein, ça a fait que Louis XIV, par exemple, demande aux habitants de Perpignan de renoncer à l'habit à l'espagnol et de s'habiller à la française. Donc déjà, sous l'Ancien Régime, on voit
ce réflexe. Commencé par assimiler les provinces. Au fond, ce que vous dites, c'est qu'on est devenu français bien avant que les Italiens, les Allemands ou les Espagnols deviennent Italiens, Allemands ou Espagnols.
Oui,
on est devenu français et pour devenir français, il fallait se plier à la façon de vivre des Parisiens ou sous Louis XIV de Versailles.
En fait, la première assimilation française, c'est l'assimilation des Français à la France. En fait, des Français, c'est-à-dire des Bretons, des Provençaux, des Alsaciens. Et effectivement, tous les petits élèves à l'école, d'ailleurs, ont dû subir des brimades des instituteurs de la Troisième République parce qu'ils parlaient patois, pour les empêcher de parler patois et les forcer à parler français.
Et je vous interromps, pardon, Raphaël Dohan, mais votre livre foisonne d'informations. Et Louis XIV, par exemple, qui a voulu à tout prix que tout le monde devienne français. C'est pour ça qu'il a révoqué l'idée de Nantes, l'édit de Nantes, en mettant fin au régime de tolérance à l'égard des protestants, et il a provoqué leur conversion forcée ou leur exil.
C'est la même logique. Alors là, il y a aussi un motif religieux chez Louis XIV, hein, qui croit vraiment à la nécessité d'établir le catholicisme comme religion d'État, mais ça fait partie aussi de cette tendance à unifier, à uniformiser, à homogénéiser le peuple français, effectivement.
Et Napoléon, lui, s'y est beaucoup mieux pris avec les Juifs. Il les a assimilés en les intégrant, et ça s'est passé très, très vite.
Oui, parce qu'il y a eu aussi une concertation avec les représentants de la communauté juive à l'époque. Il a réuni ce qu'on appelait le Grand Sanhédrin, qui était une institution en fait antique, qui ne s'était jamais réunie depuis 2000 ans à peu près, et que Napoléon a ressuscité pour en fait demander aux spécialistes, en fait, et aux dignitaires de la religion juive, de se fixer sur les règles et les coutumes qu'ils allaient respecter en France, suivant ce qui est compatible avec ce que Napoléon pensait de la société française. Et donc, effectivement, ça a été assez efficace, ça a été bien accepté. Mais d'ailleurs, la politique d'assimilation de Napoléon ne se réduisait pas aux Juifs. Il a aussi essayé d'assimiler ou de franciser, comme on disait à l'époque, les Italiens, par exemple, en les forçant à ne plus manger ou ne plus jouer aux cartes dans les loges de l'opéra, parce qu'ils trouvaient que ça ne se faisait pas si on vivait à la française.
Alors, il faut se souvenir qu'à l'époque, Rome... c'est la préfecture du département du Tibre.
Hein, oui, l'idée, c'est que l'Italie devienne la France, en fait.
L'Italie était censée devenir française, entièrement française. Alors, en ce qui concerne... Alors, sautons quelques étapes. La France républicaine, la Troisième République. En ce qui concerne les Français de couleur, comme on les appelait, vous montrez bien à quel point il n'y a jamais eu de discrimination à leur égard sur le territoire métropolitain. Ils ont toujours été considérés comme des Français à part entière.
Oui, alors il faut bien distinguer donc, ce qui se passe dans les colonies et ce qui se passe en métropole. Dans les colonies, c'était beaucoup moins clair que ça.
On y reviendra.
Mais en métropole, effectivement, il y a, sous la Troisième République, il n'y a jamais eu de loi raciste ni de ségrégation comme ce qui se faisait en Amérique. Et justement, même, il y a eu, après la Première Guerre mondiale, quand beaucoup de citoyens américains résidaient en France, des soldats ou d'autres voyageurs américains.
Bah, les touristes,
les hommes touristes aussi, absolument. Et ils ont essayé d'importer des mœurs américaines, et notamment la ségrégation et en fait le racisme anti-noir américain de l'époque. Par exemple, des restaurants ou des nightclubs de l'époque ont voulu plaire à ces nouveaux clients en instaurant la ségrégation dans leurs propres établissements. Et le gouvernement français a réagi de manière très sévère. Le Quai d'Orsay a même envoyé un communiqué vraiment très violent et très agressif envers la diplomatie américaine, en disant que c'était inacceptable que leurs ressortissants fassent régner ce genre de pratique en France, et qu'on ne pouvait pas imaginer une pratique aussi barbare, selon le Quai d'Orsay de l'époque, que la ségrégation, le racisme en France.
Le président du Conseil, Raymond Poincaré, s'en est mêlé.
Oui, l'Assemblée nationale,
on ne transigeait pas avec ce genre de choses.
Il y a eu de grandes
déclarations,
effectivement, de la classe politique française pour ne pas transiger avec le racisme qu'on disait importé d'Amérique.
Alors, en revanche, dans l'Empire colonial, vous l'avez dit, c'était l'inverse. On en parle juste après une pause.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec Raphaël Dohan, qui publie Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, chez Passé Composé. Alors, on ne remonte pas à la Grèce antique ni à l'Empire romain, bien que ce que vous racontez est passionnant. On reste en France, ou plus exactement dans l'Empire français. Et l'Empire français, ça n'était pas du tout la France. Là, c'est totalement l'inverse.
C'est assez différent, et surtout plutôt en pratique qu'en théorie, puisque en théorie, les différents gouvernements français à l'époque coloniale ont plutôt promu l'idée de l'assimilation à la fois des territoires colonisés et des peuples colonisés. Pour les territoires, ça voulait dire qu'un jour, à terme, à un horizon très lointain, ils deviendraient des départements français, qu'ils feraient partie de la France. Et pour les peuples colonisés, c'était un peu la même chose, c'est à terme, ils deviendraient des citoyens français à part entière, avec tous les droits notamment civiques, qui sont associés à ce statut. En pratique, effectivement, ça n'a pas été le cas. Et le vrai problème de l'assimilation coloniale, ce qui d'ailleurs a contribué ensuite à la mise au ban en fait, du concept d'assimilation, c'est qu'il y avait une contradiction permanente entre donc, cet idéal un peu généreux, disons, de la part des gouvernements français de l'époque et de leur point de vue, et la réalité est notamment due en fait aux colons, c'est-à-dire aux Français qui vivent dans les colonies et qui, eux, n'ont pas intérêt du tout à l'assimilation, puisqu'ils profitent d'un statut privilégié en tant que colons par rapport à une population qui a un statut inférieur, et donc eux n'ont pas envie du tout de voir cette population accéder à un statut supérieur. Et donc ils ont des mouvements qui sont souvent plutôt anti-assimilateurs, et on voit pour d'autres raisons aussi que l'assimilation effectivement n'a jamais vraiment réussi, à part pour quelques individus en général qui sont venus en métropole eux-mêmes. Et donc en fait ils ont bénéficié de l'assimilation métropolitaine qui elle marchait beaucoup mieux.
Oui, au fond en venant en France on pouvait par exemple se faire naturaliser français, être assimilé puisqu'il fallait être assimilé pour être naturalisé, mais si on restait en Algérie ou en Indochine, on avait très très peu de chance.
Oui, c'est ça, il y avait vraiment un régime à deux facettes.
Alors c'est dans les années 60-70 qu'on va abandonner l'assimilation. Alors pourquoi ?
Alors, il y a plusieurs raisons. Comme on l'a dit, il y a le problème de l'Empire, puisque dans les années 70, d'une part, on vient d'avoir la décolonisation et donc on n'a plus ces territoires à assimiler et ces populations à assimiler. Donc on n'a plus vraiment d'objets pour l'assimilation. En plus, on pense à cette époque-là que l'immigration de travail va finir et qu'il n'y aura pas d'immigration ultérieure. Et donc, on se dit à quoi bon, finalement, dans les élites administratives, comment assimiler, on n'aura plus vraiment de lien avec l'étranger, en fait. La France se referme un peu sur elle-même ou elle croit le faire. Une autre raison, elle est plus philosophique, plus intellectuelle, c'est qu'il y a une influence de philosophes et de penseurs français, ceux que les Américains ont appelés de la French Theory, qui sont devenus assez populaires et qui ont répandu l'idée, pour le dire très grossièrement, puisque chacune de leurs philosophies est plus subtile que ça, qu'il faut valoriser plutôt l'originalité, l'individualité, la singularité, que ce qui fait la valeur d'un individu, c'est sa capacité justement à s'extraire d'un groupe. Et cette idée qui est devenue très répandue, qui est encore aujourd'hui plutôt prégnante, va contre l'assimilation, la logique de l'assimilation, puisque pour s'assimiler, il faut avoir le désir de ressembler et de s'uniformiser avec un groupe majoritaire. Donc cette ambiance idéologique n'a pas aidé, bien sûr, à poursuivre l'effort d'assimilation.
On va remplacer au fond, d'après ce que vous dites dans votre livre, l'assimilation par l'intégration. Alors quelle est la différence entre les deux ?
Oui, c'est un mot qu'on voit apparaître effectivement à partir de cette époque-là dans le débat public. L'intégration, ça désigne simplement en fait la capacité d'un individu à trouver une place dans la société, à trouver un emploi, à trouver des conditions de vie correctes, à respecter la loi, mais sans forcément chercher à ressembler dans sa façon de vivre, dans ses mœurs, dans ses valeurs philosophiques, au reste de la population, à la majorité. On peut très bien s'intégrer. Par exemple, des pays plus multiculturalistes, comme le Canada, par exemple, acceptent très bien qu'une policière porte le voile. Par exemple, c'est quelque chose qui ne choque pas. En France, ça nous paraît absolument choquant, justement parce qu'on a gardé quand même un instinct plutôt égalisateur, plutôt uniformisant, et propice en fait à l'assimilation, même si on a abandonné le mot.
Mais justement, en s'adaptant, en se servant de l'intégration au lieu de l'assimilation, est-ce qu'on ne s'adaptait pas à notre époque, une époque de grands échanges de populations comme de marchandises? On le sait très bien, c'est la mondialisation. Au fond, pourquoi espérer un combat qui semble perdu d'avance, qu'on va rester comme ça, on va ménager une identité française alors que le monde entier est censé traverser notre pays et nous-mêmes sommes censés traverser le monde entier?
On pourrait croire ça quand on voit effectivement que l'assimilation dans les mots a été remplacée par d'autres termes comme intégration ou, on en parlait tout à l'heure, laïcité. Mais en fait, je trouve qu'on constate plutôt que le réflexe assimilateur français est trop fort, en fait, qu'on n'arrive pas à penser autrement. Je pense que comme l'assimilation est plutôt liée d'ailleurs à l'universalisme et à une forme d'antiracisme, en fait, c'est pas forcément un mal, hein, pour la France, mais on le voit, c'est-à-dire que la loi de 2004 sur le voile à l'école, la loi sur la burqa en 2010, aujourd'hui encore la loi sur le séparatisme ou les polémiques sur le burkini montrent qu'en fait on n'a jamais renoncé à l'idée que pour vivre en France il faut en fait partager la même culture et qu'il n'y a pas vraiment de place pour un multiculturalisme même mondialisé. Et malgré donc les influences américaines qu'on peut avoir par exemple sur notre culture populaire, je pense que ce sentiment est resté vraiment très enraciné en France.
Et donc, de ce fait, on va se servir de la laïcité, par exemple, pour faire de l'assimilation volontariste, alors que la loi de 1905 n'est pas prévue pour ça.
Non, ce n'est pas le but du tout de la loi de 1905, puisque par ailleurs, d'ailleurs, il y avait une législation de la Troisième République sur l'assimilation qui était très efficace et qui était séparée de la laïcité. Vous parliez des naturalisations tout à l'heure, on avait une administration qui enquêtait de manière très scrupuleuse et très pointilleuse sur ce qu'on appelait le degré d'assimilation des candidats à la citoyenneté française, et ça n'avait pas grand-chose à voir avec la laïcité.
Et le projet de loi contre le séparatisme, rebaptisé projet de loi sur le respect des principes républicains, celui dont on va débattre à l'Assemblée nationale à partir de demain, là aussi, vous le voyez comme un effet de notre volonté d'assimilation.
Mais en fait, cette loi, elle est typique du malaise, justement, d'un pays qui est toujours assimilateur, mais qui refuse de se l'admettre. Parce que, comme d'ailleurs vous l'avez dit, la loi a été rebaptisée. Maintenant, on parle de défense des valeurs ou des principes républicains, ce qui est beaucoup plus abstrait, ce qui n'a pas vraiment grand sens et en fait qui ne concerne pas vraiment l'objet de la loi, qui quand même ne parle pas de valeurs républicaines en fait, qui parle de problèmes du type des demandes de non-mixité dans les piscines, enfin ce genre de problèmes qui sont en fait pas vraiment républicains. C'est pas une question d'institution ou de loi, c'est d'abord une question de manière de vivre et de culture. Et donc cette loi-là, elle est caractéristique du quiproquo qui règne, qui est de dire, en fait, on dit à la fois aux enfants d'immigrés en particulier, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers aussi de vos racines, de vos différences, et en même temps, implicitement, on leur envoie beaucoup de messages disant « mais vous devez quand même être comme nous ». Et je pense que c'est la pire des situations, en fait. Parce que même pour quelqu'un qui serait de très bonne volonté, c'est difficile de savoir ce que la France attend de lui.
Et d'autant plus que pour tous les autres, on leur dit « soyez différents, soyez comme vous êtes, soyez fiers ».
Et oui, c'est schizophrénique. Et on ne peut pas savoir, en fait, exactement ce qu'on veut. Même si je pense, personnellement, que l'instinct majoritaire, en fait, à la fois de l'administration française et de la société française en général, c'est de demander l'assimilation. Mais comme on n'ose plus le dire, eh bien, ça devient un jeu à double entendre, un peu dangereux.
Merci Raphaël Dohan. Le rêve de l'assimilation de la Grèce antique à nos jours, c'est paru chez Passé Composé. On se retrouve dans un instant avec Frédéric Ploquin.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Bonjour Frédéric Ploquin.
Bonjour Frédéric Tadié.
Vous êtes journaliste spécialisé dans la police et le banditisme et votre nouveau livre Les narcos français brisent l'omerta sort ce mercredi chez Albin Michel. Alors c'est un livre tout à fait palpitant qui donne un portrait assez complet et du trafic de drogue et de la lutte contre le trafic de drogue. Alors on se doutait que c'est difficile d'être trafiquant de drogue à cause des risques, à cause de la concurrence, à cause de la violence que cela engendre, mais on s'aperçoit que c'est encore plus difficile de lutter contre le trafic de drogue.
Absolument, c'est-à-dire que j'ai rencontré effectivement des policiers sur trois ou quatre générations, comme je l'ai fait avec les trafiquants d'ailleurs, et j'ai essayé de comprendre comment, depuis finalement les années 60, le début des années 60 et la French Connection, les policiers butent sur un os. En fait, les politiques se succèdent, déclarent tous à la tête du ministère de l'Intérieur de manière péremptoire qu'ils vont faire la guerre à la drogue. Et là, j'ai retrouvé un ancien patron des stup qui remet les choses un petit peu à sa place. Il s'appelle Bernard Petit, un ancien commissaire, qui me dit, écoutez, non, contre la drogue, il n'y a pas de guerre à mener. Ce mot de guerre ne va pas. Il n'y a que des batailles à remporter. Et j'ai vraiment l'impression, en allant, parce que je suis allé sur le terrain d'un côté et de l'autre, effectivement, du côté des trafiquants et du côté des policiers. Quand je dis sur le terrain, je suis allé voir le gars de la BAC dans la banlieue parisienne, jusqu'au patron de la lutte contre le crime organisé. Et à la base, vous avez des policiers qui, bon an, mal an, se battent. C'est assez impressionnant d'ailleurs, parce qu'ils y croient. Je sais pas comment nous, citoyens, à leur place, on réagirait. C'est-à-dire que tous les jours, ils repartent à la bataille, comme ça, ils repartent et ils courent après des petits jeunes qui courent plus vite qu'eux, qui planquent leur shit, leur coke, leurs produits de manière assez adroite et maligne, qui souvent, parce que là je parle de la base du marché, sont souvent mineurs, donc quasiment inatteignables par la justice. Et j'ai rencontré des policiers qui, malgré ça, malgré ces obstacles, tous les jours, ils repartent à la bataille, ils recourent après les mêmes, ils les rattrapent. Et je vous cache pas que j'en ai un ou deux qui m'ont dit, qui disent d'ailleurs, je leur fais dire dans le livre assez clairement, il y a un moment donné, on a plutôt envie de leur filer une claque que de les amener que de les ramener au commissariat pour essayer, parce qu'en fait, ils ont face à eux, et c'est ça le propre du marché de la drogue à la base, ils ont face à eux des gens extrêmement jeunes. 14, 15, 16 ans,
et très très bien organisé en plus, parce que là vous parlez du deal de rue, mais vous racontez à quel point le deal de rue a cédé la place à la vente via WhatsApp, Facebook, Instagram ou Snapchat. Absolument. Et à la livraison à domicile. Donc le deal de rue, c'est du passé, c'est archaïque, et tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est impossible, ou quasiment impossible pour la police de le déchiffrer.
C'est pour ça que j'ai voulu donner de la profondeur et raconter sur 40 ans un peu l'évolution de ce trafic. C'est vrai qu'il y a, là j'ai retrouvé quelques bons gros vieux voyous traditionnels français qui racontent comment eux, qui étaient plutôt des braqueurs de banque, à un moment donné se sont dit, au fait, la drogue c'est un miracle sur pattes. Je veux dire, c'est quelque chose qui va nous rapporter 100 fois plus d'argent que nos braquages.
En prenant 100 fois
moins de risques. Au cours desquels en plus on prend moins de risques. Donc eux ont basculé là-dedans, mais là, quand vous allez enquêter dans certains quartiers qui sont un peu des terreaux du trafic de drogue depuis 3-4 générations, là vous avez des acteurs de ce trafic qui n'ont pas basculé d'un premier métier vers un autre, si j'ose dire, mais qui ont commencé dès l'âge de 12-13 ans comme petits guetteurs et qui connaissent parfaitement leurs produits, leur marché, qui sont des vrais professionnels qui sont là-dedans. Et la manière, d'ailleurs, j'ai été surpris de la manière dont ils ont enfin, c'est vrai que ça fait au moins 20-25 ans que je laboure ce terrain, mais qu'ils ont accepté de s'ouvrir à moi, c'est-à-dire de me raconter de l'intérieur ce marché, de m'accepter, entre guillemets, embedded au milieu du trafic. C'est parce que, au fond, et ça, c'est un indice pour nous, pour la société, pour la police et pour les politiques, c'est-à-dire qu'ils se sentent tellement sûrs d'eux, bah, qu'ils jouent quatre sur table avec moi. C'est-à-dire qu'ils racontent vraiment de l'intérieur leur métier. Et alors... comme si, rien ne pouvait les atteindre.
Alors on découvre, parce qu'ils acheminent des tonnes de stupéfiants dans notre pays, ils blanchissent des millions d'euros que ça leur rapporte, et ça c'est un des aspects qu'on connaît moins bien, la lutte contre le blanchiment de l'argent de la drogue, là c'est au niveau mondial, hein, et ça aussi c'est un échec, puisque 1% seulement serait intercepté et récupéré. Alors comment est-ce qu'on... blanchit des millions en liquide, parce qu'il faut bien, pour pouvoir s'acheter un appartement ou même une voiture, il faut blanchir cet argent sale. Hein. Alors vous racontez le petit blanchiment, il consiste à acheter un petit restaurant, un petit commerce qui ne vaut rien, on l'achète pas cher, on n'a pas besoin qu'il y ait des clients, et là on blanchit.
Oui, écoutez, il y a toute forme de blanchiment. C'est un marché en France, rien qu'en France, qui pèse 4 milliards par an d'euros, environ, hein, c'est ce qu'on arrive à peu près, c'est le chiffre le plus juste. Il faut se figurer, rien que pour se rendre compte, que les Français, chaque mois, consomment environ 40 tonnes de cannabis, c'est-à-dire que chaque jour en France, vous avez des gens pour rouler des joints pour environ 1,3 tonne de shit ou d'herbe, ce qui est quand même pas mal. Hein, donc c'est, voilà, ça fait que ça génère énormément d'argent, on s'en rend pas compte, mais si chaque jour 1,3 tonne de cannabis est roulée en joint dans ce pays, il faut bien que l'argent aille quelque part. Donc effectivement, vous avez différents niveaux de blanchiment. À la base, sur le terrain, en bas de l'échelle, on fait du local. Et là, c'est là où vous voyez pousser effectivement des sandwicheries, des bars à chicha, des bars tabac, des petits salons de coiffure, des petits magasins comme ça qui vont
où y a personne,
déclarer
en général. Où il y a personne.
Où il y a pas grand monde en fait, mais c'est pas le problème. Ils vont déclarer un chiffre d'affaires. Ils vont déclarer un chiffre d'affaires 10 fois supérieur à celui qu'ils font. Et c'est de cette façon-là qui rentre dans la caisse les espèces. Ça c'est vraiment le bas de l'échelle et au-dessus de ça. Et ça, c'est aussi le grand échec de la justice dans le monde et de la police. Au-dessus de ça, vous le savez tous, là, l'argent est roi. Les paradis fiscaux sont loin d'avoir disparu dans ce monde. Vous allez aujourd'hui à Aruba, dans les Caraïbes. Hein, je prends un exemple comme ça, mais il y a beaucoup d'endroits dans les Caraïbes où ça se passe comme ça. Vous arrivez avec 2-3 millions, le banquier, il vous fait un grand sourire. Il passe ça à la compteuse si ce sont des espèces. Et puis c'est bon, ça rentre dans le système. Et puis de Aruba... vous allez faire un transfert à un moment donné, je sais pas, vers une banque hollandaise. Les banques hollandaises, traditionnellement, sont, voilà, c'est un pays qui a toujours mis le commerce, la Hollande, qui a toujours vénéré le commerce. Donc là, on ferme aussi un petit peu les yeux. Et puis, s'il faut, vous passez par Hong Kong ou par la Chine. La Chine, aujourd'hui, je veux dire, la Chine ne ferme pas ses portes aux espèces. En fait, vous arrivez à Hong Kong aujourd'hui avec 400 000 euros en espèces, pourquoi pas. La seule question qu'on va vous poser, c'est finalement d'où vient cet argent. Et vous répondez non, c'est de la fraude fiscale, vous inquiétez pas. Et là, le banquier gravit, vous dit ah bah bienvenue chez nous, prends votre argent, vous le mettez sur le compte. En réalité. Voilà, les juges.
Et en plus, pardon de vous interrompre, Frédéric Ploquin, mais vous expliquez bien comment on n'a même pas besoin d'aller jusque là-bas avec une valise d'espèces, par un système de compensation qui date de la fin du Moyen-Âge, en fait. Vous donnez l'argent ici, et puis on vous fait un papier comme quoi vous l'avez là-bas, à Hong Kong, là-bas, au Caïman, ou là-bas, à Chypre. Il n'y a plus besoin de passer les frontières. On fait une pause, on se retrouve juste après, on continue de parler de votre livre.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Frédéric Ploquin est avec nous ce matin. Les narcos français brisent l'omerta. Son nouveau livre sort chez Albin Michel mercredi prochain. Alors, on a vu qu'il était très difficile de saisir l'argent que rapporte la drogue, mais il est également très difficile d'arrêter les trafiquants. Alors, non seulement parce qu'ils sont à la pointe de la téléphonie et de l'informatique, donc ça les rend très difficiles à attraper, mais en plus, le travail des policiers, expliquez-vous, est très encadrée juridiquement. Le policier ne peut pas inciter un trafiquant à trafiquer, ni favoriser le trafic, ni pousser quelqu'un à commettre une infraction. Et comme il faut les arrêter en flagrant délit, c'est très très difficile tout ça.
Absolument, il y a un carcan très très lourd qui a un peu évolué ces dernières années, mais si je prends par exemple la partie qui est un peu négligée en France de la lutte contre l'argent sale, enfin négligée, il y a quelques dizaines de policiers qui sont passionnés par ça, mais à côté de ça, moi je voudrais quand même dire ici qu'on les a pas aidés. On les a pas aidés parce que il y a une époque, on va dire l'apogée de la lutte contre le trafic d'argent sale en France, c'est les années 2000. Et puis tout d'un coup, vous avez un pouvoir qui arrive en France en place et qui se dit oulala, mais ces policiers sont en train, en luttant contre, en essayant de mettre à jour les tuyaux de l'argent sale de la drogue, sont en train de toucher les tuyaux de l'argent de la corruption. Et donc, à un moment donné, vous avez des politiques qui ont resserré un peu la façon de travailler, qui ont enfermé davantage dans de nouveaux textes les policiers, qui fait qu'ils se trouvent un peu démunis à l'heure de pister ce qui part à l'international, comme vous le disiez tout à l'heure, de manière à la fois ultra moderne et moyenâgeuse. C'est-à-dire que les trafiquants, ils allient un peu les deux aspects. Donc là, vous avez des obstacles. Et ensuite, il y a autre chose. C'est vrai que sur le plus visible du trafic de stupéfiants, c'est quand vous allez dans les quartiers où sont les derniers. Il y a encore, hein, tout ne se passe pas aujourd'hui sur Snapchat, même si effectivement il y a
l'essentiel
du trafic et de l'acheminement à domicile, notamment en période de confinement, où là les clients sont un petit peu moins enclins à aller au supermarché de la drogue locale parce que bon, il y a des risques de contrôle supplémentaires, il faut le masque, etc. Donc c'est bien, ça continue, hein, mais ça complique un peu les choses. Donc ils ont inventé d'autres façons de faire, ce qui fait qu'ils passent entre les mailles à chaque fois. Ils sont toujours, en fait, les trafiquants sont toujours en avance d'un train par rapport à la police et à la loi. Et c'est vrai que et puis ça explique aussi ça que je l'explore aussi dans ce livre parce que ça me paraît important. Ça explique aussi que la drogue corrompe, c'est-à-dire que la drogue, c'est pas seulement un problème de santé publique, c'est aussi quelque chose qui génère tellement d'argent que ça corrompt dans le monde entier des policiers, des douaniers, voilà, la puissance de la drogue est énorme. Ça va jusqu'à imposer une culture, parce qu'il y a une culture de l'habillement, de la façon de parler, etc. Mais la corruption, je l'explore là-dedans parce que j'ai rencontré un certain nombre de policiers qui ont accepté de raconter comment à un moment donné ils avaient eux-mêmes basculé. Et ça se passe pour des dockers dans les grands ports, pour des douaniers dans nos grands ports. À un moment donné, vous êtes flic. Voilà, tous les matins vous partez au boulot, puis à un moment donné vous voyez ce pognon, ces objets de luxe, etc. Et puis vous basculez et vous dites bon, attendez, on va continuer à contrôler, mais aussi nous, on va peut-être en prendre on va peut-être un peu prélever notre part. Et ça ne se passe pas que à Douala, à Dakar ou à Rio de Janeiro. Ça se passe aussi dans nos banlieues. En France, vous avez donc la police républicaine qui à un moment donné se sent abandonnée. Sur ces terrains abandonnés parce qu'ils sont seuls sur ces territoires un peu perdus de la République. Et puis ils se disent, ils ont 25 ans eux-mêmes, pourquoi pas ils fument d'ailleurs, parce qu'il y a des policiers, il n'y a pas de raison, ce sont des jeunes comme les autres, les policiers. À un moment donné, ils vont confisquer une barrette, ils vont la mettre dans la poche, on étouffe le truc, parce qu'en fait, ça sert à rien de lutter. Donc il y a aussi toute cette mauvaise dérive derrière. Et donc des policiers qui décident, enfin en tout cas ça les prend comme ça un matin, au lieu d'aller faire un PV, d'aller s'emmerder, de ramener le gars puis de le voir libéré, bah ils prennent la barrette, ils la mettent dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est la force corruptrice de la drogue ne doit pas être négligée au sein de la République.
Mais c'est aussi parce qu'au-delà des territoires perdus, c'est la guerre qui est perdue et qui savent très bien les policiers qu'ils ne peuvent pas l'emporter. En plus, alors s'ajoute à cela le fait que les policiers et les juges en France sont devenus presque des adversaires. Les policiers estiment que les juges ne comprennent rien à la lutte contre la drogue. Donc là aussi, c'est encore une autre raison de l'échec total de la guerre contre la drogue.
Ouais, ça c'est un aspect sur lequel j'ai vraiment voulu revenir. C'est la manière dont effectivement à un moment donné on a scié la branche sur laquelle on était assis. Vous avez, faut quand même le dire, un paquet incroyable de policiers qui ont vraiment envie de faire leur job. Et à un moment donné, il y a eu cette guerre qui s'est déclarée entre l'élite de la lutte contre les stupéfiants et l'élite de la justice, disons de lutte contre le, qui luttait contre le crime organisé. Et ils se sont d'une certaine manière auto-entre-neutralisée, et vous avez, je le rappelle quand même, parce que c'est quand même c'est assez invraisemblable, mais en France, le plus grand patron de la lutte contre les stupes s'est retrouvé en garde à vue, et puis il est aujourd'hui mis en examen. Bon, l'Office central des stupes a été rebaptisé OFAST, on a nommé une patronne à sa place, etc. On repart sur de nouvelles bases, mais il n'empêche que pendant plusieurs années, vous avez des flics qui ont quasiment eu envie de croiser les bras et de poser leur flingue au vestiaire en disant bah attendez, c'est quoi là, on nous empêche de travailler. Tout ça parce qu'en France, on a un problème, une énorme hypocrisie sur le traitement des sources et des indicateurs. Mmh. Et qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est probablement la partie du métier de policier judiciaire la plus compliquée. C'est-à-dire que pour pénétrer le trafic de stupéfiants, vous êtes obligé de faire, entre guillemets, ami-ami, vous n'êtes pas censé être ami, mais vous êtes obligé de rencontrer les trafiquants eux-mêmes. Et à un moment donné, vous n'êtes pas à l'abri que ces trafiquants vous utilisent. C'est ce qui se passe à chaque fois. C'est-à-dire, et ça va du bas, je veux dire, du quartier jusqu'au sommet du trafic de stupéfiants. Vous avez des policiers qui ne parviennent à faire des affaires, hein, que parce qu'ils ont des sources au sein du trafic, parce que vous n'allez pas contrôler tous les camions remplis de, je sais pas, de marchandises, de salades, de je ne sais quoi qui arrivent d'Espagne.
Ou les containers qui arrivent de Marseille.
Vous pouvez pas tout arrêter. Donc vous êtes obligé de faire des, vous faites pas des choix non plus, ça marche pas comme ça. En fait, les policiers agissent sur renseignement. Et à un moment donné, cette machine du renseignement qui est essentielle, elle s'est cassée. Là aujourd'hui, il faut quand même le dire aussi, je veux dire, les policiers, ils remportent des... Si vous lisez un peu tous les jours, moi je regarde un peu ce qui se passe, tous les jours il y a des centaines de dizaines de kilos qui sont interceptés. Donc les policiers font le boulot, mais on ne peut pas dire qu'ils se sentent en sécurité.
Mais il y a combien de milliers de kilos qui passent au même moment?
Ben, c'est ça, de tonnes, je dirais même. Et d'autant que la France, ça c'est aussi une chose que j'ai découverte en écoutant les uns et les autres, c'est que la France est devenue l'un des premiers marchés de la cocaïne dans le monde aujourd'hui, et que quand vous allez, comme je l'ai fait à Bogota ou dans le nord de la Colombie, on vous dit, ah, la France, notre nouvel Eldorado. Donc il y a aussi ce produit qui arrive massivement.
Dernière question, Frédéric Ploquin, vous le rappelez, en 1953, quand on a fondé l'Office central de répression du trafic des stupéfiants, la France comptait 600 toxicomanes. Le trafic de drogue était complètement marginal en Europe. 67 ans plus tard, il s'est industrialisé, il s'est mondialisé, la drogue est partout, les 4 millions de Français fument du cannabis, vous l'avez dit, les consommateurs de cocaïne seraient 150 000, 360 000 auraient touché l'héroïne, etc. etc. Vu ce que vous racontez, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de tout légaliser? L'État reprendrait la main, les mafias disparaîtraient.
Ouais. Non, la question se pose en tout cas pour le cannabis. Pour la cocaïne, je vois pas un État dans le monde aujourd'hui la légaliser, ça me paraîtrait assez difficile vu
la dangerosité
de ce produit.
La République doit se poser la question.
Non, juste une dernière chose. Je veux dire, on parle beaucoup ces temps-ci de séparatisme à propos de religion. Mais là, ce que je mets en avant, c'est qu'est née une forme de séparatisme économique. Et donc, dans ces territoires, vous avez des pans entiers de la population qui s'est prise en main grâce à ce marché. Donc, qu'est-ce que vous faites avec eux le jour où vous légalisez?
Merci Frédéric Ploquin. Les narco-français brisent l'omerta. Ça sort mercredi en librairie. On se retrouve dans un instant avec Yaya S.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Lala S.
Bonjour.
Vous êtes rappeuse, ex-membre de la Ligue des Ombres et du collectif lyonnais 667. Et vous venez de sortir un premier album solo très attendu, Everything Tasteful. Oui. Pour moi, c'est très romantique. C'est du rap romantique. C'est que des slow, en fait.
C'est vrai, il y en a beaucoup. Il y a un petit moment dans l'album où on s'énerve un peu plus, on va dire. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup prendre mon temps, même dans la vie un peu, donc tout est un peu ralenti.
Mais ceux qui ne connaissent pas le rap ont l'impression qu'il n'y a pas de slow dans le rap, et vous êtes la preuve qu'il y en a.
C'est vrai, c'est vrai, c'est le slow du rap peut-être.
Voilà, on va écouter tout de suite un extrait d'un premier morceau, particulièrement lancinant. On écoute Viral.
D'ailleurs, en balade dans la capitale, ton copto c'est une fanta tropicale. Jamais trop descendre, surf sur la spirale. J'ai job tout l'été, j'suis pas la cigale. Et cette bitch c'est ma ho, c'est pas ma rivale. J'suis dans d'autres fréquences, j'ai pas le même signal.
Pop la chloroquine, la cité virale. Ah, 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 sur rare comme Rookin, Japon estimal.
Yeah, she tryna fuck, I ain't with it. Send us the dog, we gon' spin it. Yeah, Versace and Louis, my linen. Whatever he on, we with it. Yeah, I made me a meal, I did it. And none of these whips is winning. Then I might spend a dub in Nemus. Yeah, cut the bitch off, I don't need it. Pour up some walk in the leader. Had to bring a bitch home, she a eater. Yeah, like the way you look when you look back. Walk straight in the club with the Glock in the book bag. Set up a lick, we gon' hit that. Took a trip out of town, need a 10 when I get back. Said he got 8, where the rest at? Yeah, I might tell him go spin where you rest at. Let's go. He tryna fuck, I ain't with you.
Lala Ace, vous pratiquez ce qu'on appelle le chop and screwed. Est-ce que vous pouvez expliquer de quoi il s'agit ?
Alors c'est une technique de ralentissement des musiques, on va dire, qui vient des années 2000, je dirais, tout début des années 2090.
DJ screw.
Du DJ screw, ouais, c'est ça. Donc lui, en fait, le screw, c'est un tournevis. Et lui, il dévissait ses platines pour pouvoir ralentir le son. Donc nous, on le fait maintenant numériquement et tout. Mais...
C'est ce qui donne ce côté lent, sensuel, ouais, lancinant. Moi, je trouve ça lancinant.
Ouais, c'est ça. C'est un peu la vague. On ne sait pas trop où on est.
Voilà. Il y a un peu un petit côté angoissant aussi. Vous le sentez,
ouais,
bien.
Peut-être, ouais. Bon, ce n'est pas le but, mais ça fait vrai.
On en écoute tout de suite un autre extrait.
Faisons son lit, oh la main, oh la la. Elle fait le job, elle ne tape sans les mains. Sur 31 pour un gros câlin, mais comment ça? Tu veux plus me parler, comment ça? Tu veux plus où elle est tout en bas? Je prends sur moi, je me prends pour qui puis je me prends pour moi. Tu comprends ça? Comble ta bébé, fais doucement. Mal aimé, t'es encore dedans. Beaucoup d'efforts pour finir tout devant. Ça c'est du sport, fais très attention. Je veux show me love, show me. Comment ton papa, c'est pas possible. Je crois que je vais die pour ton body. Et tu veux le show me là, show me.
Lala Ace, vous ne vous contentez pas de ralentir les musiques, vous pratiquez une sorte de sabir anglo-français aussi, oui, un peu comme dans les réunions marketing, mais pas le même sabir. Hein.
Un peu moins dur à l'oreille, j'espère. Voilà.
Ah oui, oui, non, c'est très joli à l'oreille, mais ça, on a l'impression qu'on ne comprend pas, c'est assez allusif, c'est crypté comme le bitcoin.
Oui, c'est vrai.
Vous parlez comme ça ?
Oui, c'est vrai que du fait que j'ai vécu à Londres pendant longtemps, pendant au moins 5 ans, j'ai quand même... beaucoup de mots qui viennent dans ma tête en premier en anglais, en fait. Et du coup, bon, j'essaye de ne pas le faire, ouais, trop en mode marketing non plus. Mais ouais, c'est vrai que je parle comme ça un peu.
Mais
ouais,
ça donne un côté très mystérieux. Mmh. En même temps, on se dit que le sens doit être subalterne, y compris, ouais, pour vous. Au fond, c'est la façon dont ça sonne, la façon, ouais, c'est l'allusion que ça peut faire.
Oui, c'est
vous plaît,
vrai, les sentiments que ça provoque, vraiment juste le son dans l'oreille, en fait. D'abord, après c'est vrai que j'écris quand même des paroles et il y a des bonnes paroles, donc il faudrait les comprendre.
Effectivement, il faut se reporter dans l'album aux paroles écrites, et là tout, ouais, à coup on découvre que ça raconte une histoire,
voilà,
qu'on n'avait pas forcément comprise,
c'est vrai,
dès
exactement,
le départ.
Exactement. Mais c'est le mystère aussi. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que des fois les fans inventent leurs paroles dessus, et des fois c'est encore mieux que ce que j'ai écrit, donc voilà.
Mais au fond, nous sommes habitués, nous les Français, en écoutant les groupes anglo-saxons, à entendre la voix comme un instrument. Ouais. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire,
voilà,
mais ça sonne.
Voilà, bah
et
c'est
on trouve ça
moi
joli. L'influence du rap américain est évidente sur tous les rappeurs, mais est-ce qu'il y a un rap africain? Je sais que votre mère est ivoirienne. Est-ce qu'il y a un rap africain et est-ce qu'il vous a influencé?
Alors il y en a un, et je pense de plus en plus récemment, c'est vraiment dans les 5 dernières années, voire 3 dernières années, où vraiment, en Côte d'Ivoire en tout cas, ça se développe de plus en plus, le rap, ce qu'on appelle le rap ivoire. Mais ça ne m'a pas du coup très influencé, mais je suis fière de voir que ça commence à prendre un peu en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aller voir, découvrir un peu ce qui se passe un peu plus là-bas, peut-être signer des artistes.
Ou... Vous êtes une fan de Serena Williams, vous, oui, la célébrez souvent dans les paroles, y compris, oui, dans votre nom d'ailleurs, Lala Ace. Ace, oui, c'est l'allusion au tennis.
Oui,
pourquoi Serena Williams?
Bah c'était un peu une icône quand j'étais petite. Moi, dans ma famille, on aime beaucoup, beaucoup le tennis. On suit ça comme la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu bon, voilà, la gagnante, la seule femme noire aussi qui remporte tout. Donc, c'était un peu un rôle modèle. Genre j'arrivais à m'identifier un peu à elle. Et puis, mon oncle était amoureux d'elle aussi. Donc,
vous auriez pu vous identifier à des femmes noires dans la musique qui, elles aussi, ouais, remportent tout. Hein.
C'est vrai. Mais comme j'aime le tennis, en fait, c'est aussi le fait que ça soit un sport qui lui est pas forcément destiné. Le tennis, c'est pas forcément beaucoup répandu chez les communautés noires en Amérique du tout. Donc le fait qu'elle soit, voilà, qu'elle soit sortie de là où elle est pour gagner tout ça, ça m'impressionne.
Encore un extrait de cet album Everything Tasteful, particulièrement bien produit, très joli. Ça vous dérange pas, je dise joli?
Non, joli, c'est super comme mot, j'adore.
Ouais, escro, tout coup dans le sable, toujours un coup dans le sable, coup dans le sable. C'est la coupe, t'es en tasse, elle est pas sur ma tago en casse. Ouais, c'est pas, je suis pas un mec. Il dit, t'es vivant d'une autre planète. Ouais. Prep like milk, je giga après. Je un stack un peu comme giga mec. Ah ouais. Reckless boss comme le soleil. Papa que t'animes, maîtrise le sommeil. Ah ouais. Extra comme pika, je pique après. Elle a jamais une piste comme ice. Oh la ligne. Je dis, je la fous ta bec. Si tu me fais avant comme ma cigarette. Et puis prends ton coup avant que je disparaisse. Je bitch.
La Laïs, ceux qui n'aiment pas le rap, qui n'écoutent pas de rap, donc par la même occasion, ont l'impression que c'est une musique qui se répète depuis 30 ans maintenant, ce serait toujours la même musique. Mmh. En vous écoutant, on voit bien que ça n'est pas le cas. Mmh. Le rap, s'est-il souvent renouvelé ?
Ouais, je pense qu'il y a des vagues un peu de... Il y a aussi des tendances aussi dans le rap, un peu comme peut-être dans l'écriture, je sais pas, la littérature, il y a des vagues un peu. Et je pense dans le rap aussi, donc là, ces dernières années en France, aux États-Unis, il y a la trap, qui est un gros mouvement... qui vient à la base du sud des États-Unis. Et là, maintenant aussi, il y a la drill qui vient, elle, d'Angleterre. Et puis, il y a le cloud aussi. C'est ce que moi, c'est avec quoi j'ai commencé, en fait, sur SoundCloud. C'est une plateforme. Et donc, c'est un truc plus lancinant, comme vous dites, et plus planant. Voilà, moi, j'oscille un peu entre toutes ces tendances. Et voilà, je fais mon truc, quoi.
Eh bien, écoutez, c'est très planant. Je vous souhaite le meilleur, la Laïs.
Merci beaucoup.
Je ne demande pas votre date de concert. Il faudra encore attendre un peu.
Ouais, il y a des festivals, là. Mais bon, on va voir. J'espère, on croise les doigts.
L'album s'intitule Everything Tasteful.
Oui. Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain. C'est maintenant le grand rendez-vous Europe 1 CNews, les échos, présenté par Mickaël Darmon. Qui est votre invité, Mickaël ?
Bonjour, c'est Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Le vieux parti à la rose est entré en thérapie. Pour 2022, le projet de dépasser les logos et les égos. Vaste programme.
Bonne émission, Mickaël.